On va se lancer dans ce voyage plein de surprises et de chemins de traverse. Je suis vraiment heureuse, j'avais hâte de vous rencontrer en vrai. Je suis heureuse d'avoir ce temps. Merci d'être là, merci à la Librairie des Volcans, bien évidemment, de nous organiser aussi ces temps sur le territoire local. Moi, pas comme Tiellement, je ne vous connaissais pas beaucoup. Et pourtant, vous m'avez fait connaître en si peu de temps beaucoup, beaucoup d'histoires, de personnages, de récits, d'idées. Je suis rentrée dans le livre dont on va parler ce soir de manière un peu scolaire. Il faut dire qu'on ne m'avait pas complètement prévenue. Donc j'ai regardé les chapitres.
Oui.
Et je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir de toute cette histoire ? Et là où votre œuvre, mais plus globalement avec les autres livres, est assez incroyable, c'est que dans votre univers référentiel, vous ne nous laissez pas nous noyer, même si on n'est pas complètement initié au cinéma de Rivette, même si on n'a pas lu l'intégralité de la comédie humaine. Vous êtes un conteur exigeant, mais qui nous tient quand même un petit peu par la main. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore rentrés dans ce livre, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une qualité prérequise, c'est le fait d'être curieux et d'avoir envie un peu d'enquêter avec vous sur ces récits, ces sens cachés ou pas, qui parlent de nos sociétés et de notre humanité. Alors ce livre-là, Le secret de la société, il vient un peu... Alors je ne sais pas s'il vient clore ou s'il participe à un cycle de 4 livres que vous avez rédigés qui amène une réflexion globale sur les impossibilités du monde contemporain et les voies de passage. Enfin, vous l'expliquerez beaucoup mieux que moi. Et il traverse 4 grands espaces. Le premier avec La victoire des 100 rois qui parle de religion, autour de la religion. Sycomore Sycamore qui parle d'amour. L'enquête infinie, qui vient parler de l'art, et là, avec Le secret de la société, on parle de politique, ou en tout cas de nos sentiments d'impuissance politique. Alors moi, la première question que j'avais envie de vous poser pour qu'on puisse un peu rentrer collectivement dans cet ouvrage, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes retrouvé à lire un ouvrage de plusieurs centaines de pages, rédigé par un abbé inconnu, la plume un peu lourdingue, d'après vous, hein, moi je ne suis pas rentrée dedans, du début du 19e siècle. Comment vous en êtes arrivé là ?
Je vais essayer de ne pas faire une réponse d'une heure, mais je ne vous promets rien. Au départ, mon idée, pour faire un livre qui morde sur les questions de politique et même les questions de politique contemporaine, c'était de passer à travers le filtre des films de Jacques Rivette. Et c'est une idée que j'avais depuis 10 ans, 15 ans, je ne sais pas exactement, depuis longtemps. Parce que ça fait longtemps que les films de Jacques Rivette m'obsèdent et me semblent toujours plus pertinents à mesure que le temps avance. Pour plein de raisons. Mais parce qu'ils touchent d'une façon complètement inattendue, on va dire, les grands sujets de société. Il les a anticipés et il a trouvé aussi, d'une façon ou d'une autre, des problèmes et aussi des solutions ou si ce n'était pas les bonnes solutions, chercher ailleurs. Et Rivette, donc c'est... Alors pour, c'est quand même... S'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas Jacques Rivette, je vais faire un tout petit peu de... vraiment quelques lignes, quoi. Rivette est ce qu'on appelle un membre de la nouvelle vague. C'est-à-dire que c'est un type qui était au cahier du cinéma avec Truffaut, Godard, Chabrol, Romère et qui a fait partie de ces cinéastes qui sont nés des cahiers du cinéma. Donc, de cette époque-là. Par contre, c'est le moins célèbre de toute cette équipe. C'est celui qui a été le moins commenté. Et parfois, les films ont été... peu vus ou sont vus très longtemps après. Le film dont je parle principalement dans ce livre, qui s'appelle Out 1, est sorti, c'est un film qui fait 13 heures, et qui est en grande majorité improvisé. Mais c'est un film qui est captivant. Mais Il a un format qui est inhabituel. C'est un film du début des années 70, tourné en 71. Et il a eu à ce moment-là une seule projection. Une seule projection en deux jours au Havre. Et ensuite, ils ont fait une sorte de version courte qui faisait quand même 4 heures, qui a tenu moins d'une semaine dans un cinéma parisien. Donc, c'est un film que moi, j'ai découvert au milieu des années 90, alors que je commençais à m'intéresser beaucoup au cinéma de Rivette, parce qu'il est sorti, à ce moment-là, directement en VHS par correspondance. Donc, j'avais commandé la VHS par correspondance de Out 1. On peut dire Out 1 aussi, mais comme Rivette dit Out 1 ou Out, je répète. Donc, je fais Out 1 ou Out. Mais on peut dire Out 1. Out. C'était des cassettes vidéo. Et donc, c'était ce film extrêmement mystérieux où on voit deux marginaux, un mendiant, un vendeur de, enfin mendiant qui échange contre des pièces, une espèce de petite enveloppe avec une page arrachée de livre, comme ça, à la terrasse des cafés, qui est joué par Jean-Pierre Léaud, qui s'appelle Colin, et une petite voleuse, qui est jouée par Juliette Berthaud et qui s'appelle Frédéric. Et à un moment, ils se retrouvent confrontés à l'hypothèse de la présence d'une société secrète qui agit dans le Paris des années 70, sur le modèle des 13 de Balzac. Et en fait, c'est un film qui est complètement captivant. Les membres de la société secrète sont joués par des acteurs incroyables. Ils sont joués par Michael Lonsdale, Bernadette Lafont, Bulogier, Jean Bouise, Françoise Fabian. C'est un super casting. Mais c'est un film très, très, très inhabituel, et dans sa forme et dans son fond. Ce film m'a absolument fasciné. Et comme le reste du cinéma de Rivette, du reste, il a été... Alors, ce film, ça s'y prête particulièrement bien, toujours associé à deux choses. Mais dès son premier film, il a été associé à ces deux choses, Balzac et le complot. C'est devenu le cinéaste du complot. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Il disait, bon, le complot, ça m'intéresse très peu. Bon, j'ai fait ça comme ça. Puis après, on lui associait pour des films où il dit, mais il n'y a pas de complot dans ce film. Pourquoi vous me dites encore que c'est un complot? Non, non, c'est juste des opérations de police. C'est pas un complot. Et pour Balzac, qui se trouve quand même être cité dès son premier titre de film, Paris nous appartient, ça fait un écho à Nous deux Paris de Rastignac à la fin du Père Goriot. Et dès son premier film, il était associé à Balzac aussi, et pareil, il se défaussait en permanence. Je suis, des membres du Cahier du cinéma, celui qui a le moins lu Balzac, celui qui l'a lu le plus tard, celui qui le connaît le moins bien. Il s'est trouvé quand même à la fin être le seul qui fasse véritablement une adaptation de Balzac, et même deux, on pourrait dire, une variation avec La Belle Noiseuse et une adaptation stricto sensu avec Ne touchez pas la hache, qui est une adaptation de La Duchesse de Langeais. Donc, il a été associé à ces deux thèmes-là, et pourquoi je me suis retrouvé finalement à lire 500 à 600 pages d'un ex-abbé qui écrit pas très bien et qui est pas la personne la plus agréable du monde? Parce que, évidemment, quand on parle aujourd'hui de complot, on l'associe immédiatement à la question de la théorie du complot. Donc je me disais, je ne peux pas faire un livre qui parle de Rivette, et surtout de Rivette politiquement, si je n'aborde pas à ma manière, trouver une manière à soi d'aborder ces sujets-là, qui sont des sujets qui sont avant tout des sujets de société, donc des sujets dans lesquels il y a une approche presque, clé en main, quoi, une explication clé en main. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire les grands théoriciens du complot. Et en fait, le premier qui est supposé avoir fait une théorie du complot complète, un livre entier, c'est l'abbé Barvel, enfin l'ex-abbé Barvel, qui est celui qui a interprété la Révolution française comme le produit d'un complot réalisé par les Jacobins pour le compte des Illuminés de Bavière. Et un complot qui remonterait jusque à Mani. Et ça, je l'ai appris en lisant le livre. J'ai pas perdu mon temps. Parce que, en fait, il se trouve que j'ai toujours été passionné par les hérétiques. Ceux qu'on appelle les hérétiques. Donc, qui pour moi sont la lignée la plus belle, la plus émouvante, la plus passionnante. Que ce soit ceux qu'on a appelés les gnostiques, ceux qu'on a appelés les manichéens, ceux qu'on a appelés les cathares, etc. J'en parle donc autrement, dans l'Empire n'a jamais pris fin. Il se trouve, chose qui m'a extrêmement surprise, que dans le livre de Baruel, ils apparaissent d'une façon brutale et violente, comme les instigateurs, les propagateurs du complot qui a donné la Révolution française.
Donc il se serait passé le mot depuis Mani.
Depuis Mani, oui. Et c'est pour ça qu'il dit « le premier Jacobin fut un esclave ». Alors parce qu'il interprète le fait que Mani ait été un El-Kazaïte, donc d'une petite société judéo-chrétienne en région de l'actuel Irak, minoritaire, comme un esclave. Donc, il dit « le premier Jacobin fut un esclave ». Et donc il s'énerve beaucoup contre Mani, qui avait ce projet donc d'en finir avec tous les riches. Et donc ça, c'est la première grande théorie du complot, mais elle est incroyable. Alors, c'est 600 pages assez pénibles, mais on y trouve vraiment des merveilles. Parce que, véritablement, le truc fascinant là-dedans, c'est qu'on comprend bien ce qui se passe. On est face à quelqu'un qui a perdu son pouvoir. Parce que après la Révolution française, il se trouve être un prêtre qui perd son titre d'abbé et qui part en exil. Et donc, c'est ininterprétable pour lui ce qui se passe. C'est strictement ininterprétable. Et ça va être le premier, mais il va être suivi immédiatement par un professeur de physique écossais, John Robinson, qui va aussi raconter pendant des... Alors, j'ai pas lu le bouquin, là, par contre, j'ai lu des extraits pendant des centaines de pages, aussi les méfaits des Illuminés de Bavière et tout ça. Et donc, ce truc-là va naître précisément d'un événement qui rentrait pas dans le cadre et qui était la Révolution française, qui trouvait pas d'autre moyen de l'expliquer. Ça m'a intéressé parce que pour avoir lu ensuite pour continuer à me renseigner les principaux spécialistes des théories du complot, c'est pas du tout ça qu'il faut. Mais pour une bonne raison, c'est pas non plus des révolutionnaires. Et en fait, j'ai trouvé un point commun, en tout cas, entre ceux qu'on a appelés complotistes et ceux qu'on a dit spécialistes du complotisme, c'est que ni les uns ni les autres ne sont révolutionnaires. Ce qui fait qu'en fait, ce qui est fou, c'est que quand on lit les textes qui sont supposés expliquer sociologiquement, interpréter le phénomène du complotisme, etc., ils s'intéressent pas tellement à Baruel et à tout ça. Alors que c'est évident que c'est une ligne qui est cohérente, parce qu'après très peu de temps après, Baruel déjà commence à se déplacer vers à recycler l'antijudaïsme des chrétiens du Moyen Âge, et il va nourrir tout ce qui est protocole des sages de Sion, etc. C'est une continuité. Tandis que quand on lit les spécialistes du complotisme, eux, ils mettent dedans très souvent, du reste, le Saint-Just, les Cordeliers. Au contraire, ils mettent les révolutionnaires.
Donc vous, ce que vous nous dites un peu, enfin ce que vous développez un peu dans l'ouvrage, en tout cas au début, c'est un peu cette mise en miroir entre ce que vous appelez les terroristes du complot, donc le gang un peu Baruel, et les théoriciens du complotisme, qui finalement, dans leur volonté de rechercher absolument un lien, ou en tout cas quelque chose qui fait sens, iraient un peu faire la même chose si on tire...
Dans les deux cas, on a affaire à des gens qui sont totalement délirants. Je dis ça avec le plus grand affection, parce que moi je suis aussi délirant qu'eux. Mais disons que le problème, c'est que on va dire, c'est une chose d'être fou, c'est une autre de considérer que les autres le sont, et de considérer qu'on l'est pas. Voilà, ça en fait, c'est plutôt ça. C'est de considérer qu'on est soi-même dans son droit. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a une, on va dire qu'il y a, il y en a beaucoup, hein, des problèmes. Je les liste quasiment. Ça fait des chapitres un peu bizarres, j'en suis conscient. Hein, ça fait des chapitres qui vont dans une direction puis dans une autre. De toute façon, tout ça est pensé un peu comme un labyrinthe, hein, pour épouser un peu la forme très ouverte des films de Rivette et aussi une vision un peu comme faire un livre un peu comme si on se baladerait dans une ville avec ses coins et ses recoins et on rencontre des gens différents selon les endroits où on va. Mais c'est ça qui m'a intéressé. C'est que dans un cas, on avait des personnes qui vivaient concrètement un sentiment d'impuissance politique et qui essayaient de l'expliquer par des généalogies, qui étaient des généalogies généralement stigmatisantes, où on cherchait des des adversaires faibles. Et de l'autre côté, on avait des personnes qui recouvraient la réalité du sentiment d'impuissance politique en disant non, non, tout va très bien. C'est juste des fous. Et dans les deux sens, ça ne m'allait pas. Parce que pour moi, ce qu'il y avait de réel, c'est ce sentiment-là. Et c'était à ça qu'il fallait s'attaquer. C'est-à-dire, à un moment, qu'est-ce qu'on fait quand on se dit, il y a une société qui fonctionne sans moi. Et j'en fais partie. J'ai pas le choix. Je fais partie du truc. Et pourtant, c'est, quel que soit ce que je dis, ça bougera pas. J'ai pas ma voix. Et quand on y réfléchit, ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. C'est une majorité. C'est une très grande majorité. Donc, sur le fond, c'est la question de sentir qu'on est dans une situation où on n'a pas la possibilité d'exercer sa puissance, de la développer, et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Et dans cette logique-là, j'ai trouvé beaucoup plus d'écho et chez les poètes. C'est pour ça que dans le livre, il y a une place énorme qui est donnée aux poètes, que ce soit Artaud, que ce soit Nerval, que ce soit même Novalis, Le Grand Jeu, etc. Et plus près de nous, après Colette Thomas, Juliette Berthaud, Hermine Caragueuse, etc. Et dans les films de Rivette, pour plusieurs raisons. Mais il fallait en passer par là. Donc j'ai répondu à la première question, j'ai fait un tunnel épouvantable. Non, et je vais vous laisser reprendre quand même.
J'en ai posé trois en vrai, déjà.
Enfin, c'est vrai.
Vous avez répondu à trois que j'avais prévues, donc ça va. On est bien.
Ça va. On est dans les temps. Tout va bien. Bon.
Pour repartir un peu là de toutes ces résonances justement, moi j'avais un peu envie que vous puissiez nous parler de la fabrique du livre. Comment est-ce que justement, voilà, quand je disais au départ, on prend les chapitres et puis voilà, finalement, on sent bien que ça s'est construit en résonance avec d'autres. Donc vous venez un peu d'en parler, mais j'aimerais bien que vous développiez un petit peu pourquoi être allé chercher Simone Veil, parce qu'il y a aussi des philosophes, de la poésie, des peintres.
Oui.
Il y a quand même. Alors c'est pas une monographie sur Rivette, justement. Vous le mettez en lien.
Oui.
Et comment ça s'est un peu fabriqué tout ça?
Bon, alors ça, de toute façon, quel que soit le livre que je fais. J'ai souvent un personnage principal, une figure ou une œuvre qui va me guider principalement, mais je vais m'arrêter à beaucoup d'autres endroits. C'est un voyage, donc c'est multiple. Donc, en effet, Rivette, c'est le fil rouge, mais il y avait beaucoup d'autres personnes à aller chercher. Qui rencontraient les thèmes du livre ou qui rencontraient aussi les thèmes des films de Rivette, qui se retrouvaient. Comment je procède? Bon, là, fondamentalement, quand je travaille sur un sujet, c'est très banal ce que je veux dire, je me plonge dedans. Mais alors pour les films, c'est qu'en gros, je les regarde en boucle. Donc les films de Rivette, ils ont commencé à passer en boucle comme ça sur ma télévision. Et c'est pas les plus courts. Mais en gros, je me laisse imprégner. Donc alors, je fais des plans, etc., des trucs. J'essaye de comprendre comment les films fonctionnent. Mais en gros, au bout d'un moment. Je deviens familier au film et j'essaye d'être attentif aux détails. Et donc du coup, je suis stupéfait quand je vois à l'arrière-plan d'une scène de Paris nous appartient la photo d'Artaud. Qu'est-ce qu'il fout là? On est en 57. Artaud en 57, c'est pas Artaud aujourd'hui. Et c'est pas non plus Artaud avant-guerre. En 57, où ça en est Artaud? Qu'est-ce qu'on lit d'Artaud? Qu'est-ce qui représente à ce moment-là pour que on ait la photo d'Artaud dans le film de Rivette, si nette, quand on regarde bien un plan où alors tout le reste c'est des dessins, etc. Puis pan au milieu une photo d'Artaud très nette. Choc. Pareil, j'ai retrouvé des photos d'Artaud ou des citations d'Artaud dans les films de Fassbinder. Pareil, qu'est-ce qui représente Fassbinder? On est plus tard, on est dans les 70, mais en 70 en Allemagne, qu'est-ce que ça représente Artaud pour Fassbinder quand il le lit en allemand, en voix off de théâtre en transe comme ça, ou qu'il met des citations en bloc comme ça au milieu de ses films. Donc, Artaud. Ou quand je vois Out, je le vois en boucle, Out 1, à un moment, il y a une discussion où Juliette Berthaud, son personnage de Juliette Berthaud, Frédéric, parle avec son amoureux, Renaud, joué par Alain Libaud, et fait une blague. Et elle fait une blague qui, en fait, elle cite un nom de très bizarre, parce que lui, il lui parle de sa société secrète, etc. Elle dit, est-ce qu'il y a un homme qui s'appelle Cosmo Chronos ? Et ils se marrent tous les deux, et c'est la fin de la scène. Ça, je l'ai vu incalculable de fois, sans me poser de questions. Au moment, je dis, de quoi elle parle exactement là-dedans ? Alors, je commence à chercher. Et je me rends compte que Cosmo Chronos, c'est le nom d'un chef de secte dans une série télévisée française des années 60 qui s'appelle Les Compagnons de Bâle. Et il se trouve que Juliette Berthaud, en fait, elle joue une des adeptes dans un des épisodes. Alors, elle fait pas grand-chose et j'étais mort de rire quand j'ai regardé l'épisode où elle est en adepte des Compagnons de Bâle, parce que en plus, elle arrive pas à garder son sérieux. Elle est allée faire une panouille, probablement, et actrice débutante, elle a même pas encore joué dans les Godard, mais elle est arrivée à Paris, elle va faire elle fait une panouille dans, grosso modo, une panouille, elle fait figurante, quoi, payée à la journée, quoi. Et elle va à la journée, et c'est tellement comique, quoi, qu'elle arrive pas à tenir son sérieux dans cette scène, et elle doit encore y penser qu'en 10 ans plus tard, elle fait la blague, mais eux, ils comprennent la blague. Donc mais ce qui est intéressant, alors pourquoi ça m'intéresse à ce moment-là ? Parce que Les Compagnons de Bâle, c'est vraiment un récit de société secrète classique. C'est la société secrète qui fait vraiment le mal, etc. Et c'est ça ressemble au roman feuilleton du 19e siècle, auquel ressemblent du reste les textes de Baruel. Ils ressemblent à du roman feuilleton, les textes qu'on dit des complotistes avec les Illuminés de Bavière et tout ça. Ça ressemble au roman feuilleton. Quand on regarde le complot chez Rivette dans Out, c'est des espèces de mecs qui foutent rien, qui se retrouvent et qui disent, alors t'y as repensé, ils en ont parlé il y a 3 ans, oui, c'est dans l'air, on y réfléchit. Ça existe, mais ailleurs, dans le souvenir. Ah oui, mais parce que pour moi, c'est vraiment très présent. Oui, bah peut-être, mais pas pour moi. Et c'est vraiment des types qui foutent que dalle. Et c'est un peu le cas du reste des 13 de Balzac. Donc c'est assez comique. C'est-à-dire qu'on est dans une vision beaucoup plus réaliste, soudain, de ce que ça pourrait être, par rapport à une vision tapageuse, dramatique et spectaculaire. Mais ce qui fait que du coup, quand le fantastique intervient chez Rivette, il est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il y a une dimension fantastique dans les Compagnons de Bâle. Quand on regarde aujourd'hui, on est mort de rire. C'est vraiment du kitsch. Quand le fantastique arrive dans Out, et il arrive, ah ben on est saisi. Ça fait froid dans le dos. Ça a une autre réalité. Donc c'était intéressant. Donc en regardant des détails, donc c'est ça que je fais, c'est que je laisse les choses jusqu'à que je trouve les détails, je les fouille. C'est une enquête parce que c'est des et je vais où ça m'amène. Je laisse, en gros, l'idée c'est qu'à un moment mais c'est toujours pareil avec les bouquins. C'est à un moment je dis le livre prendra le relais. Pendant un moment, c'est moi qui travaille. Donc pendant un moment, j'amène les choses, je gratte, je sais pas où je vais, j'amène des idées, etc. Et au bout d'un moment, le livre apparaît et apparaît nettement. Mais c'est même le cas pour des textes plus courts. Ça pourrait être le cas si vous avez vu des programmes pour Blast. En gros, quand je les écris, c'est pareil, sauf que c'est sur 3 semaines. Mais sur 3 semaines, en gros, il y a une semaine et demie pendant lequel je patine, ça marche pas, c'est pas là, je gratte, ça ressemble à rien, etc. Et il y a un moment où j'ai l'impression de voir le programme décider de ce qu'il garde et de ce qu'il garde pas.
Oui.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ah ben tout est toujours mis à contribution. C'est-à-dire que de toute manière, c'est un travail continu. Donc à chaque fois, un livre c'est un morceau d'une histoire plus vaste. Mais là, cette histoire-là, c'était. J'ai jamais fait de livre sur la question proprement politique. Les questions politiques, elles apparaissaient éventuellement dans mes livres ou tout ça par surcroît. C'était pas le sujet. Là, je me dis, bon, bah, ça va être le sujet. Ça va être le sujet avec Rivette. Pourquoi Rivette ? Parce que Rivette a donné sa pleine puissance et son rôle clé aux marginaux. Et que c'est le cinéma des marginaux, ou des marges de son temps.
Est-ce qu'on peut creuser un peu cette idée que Rivette, comment est-ce que Rivette aide à penser l'époque? Parce que c'est un peu, vous allez aussi le chercher pour nous aider à regarder à travers. Alors d'ailleurs, il n'y a pas que Rivette, il n'y a pas que les films, il y a aussi, moi, c'est aussi ce que j'ai découvert dans ce livre. Il y a Rivette, critique de cinéma, oui. Rivette, écrivain, il écrivait extrêmement bien,
très
il écrivait
bien.
Des choses qui sont encore très justes et très sensibles.
Ouais.
Et comment est-ce que, dans une des vidéos de présentation du livre, vous expliquez que Rivette, il résonne énormément avec les faits politiques d'aujourd'hui.
Oui.
Comment est-ce que vous les mettez en lien?
Ça apparaît assez clairement pour moi. Alors, que ce soit ce sujet de société-là, complotisme, anti-complotisme, centre, marge, la constitution dès les premiers films de Rivette d'une bourgeoisie de gauche prête à trahir tous les idéaux de sa jeunesse à la première occasion, mais des choses qu'il a trouvées déjà chez Renoir, mais qu'il a remis à jour dès le début des années 70 et d'une façon tellement forte, parce qu'à ce moment-là, il tire contre son propre milieu quand il montre ça. Ce qu'il montre, en gros, c'est l'idée de Renoir qu'il y a toujours les innocents qui seront sacrifiés pour que la société continue. Alors, qui sont ces innocents? Donc ça, c'est l'idée de la règle du jeu, mais Rivette, qui reprend la flèche de Renoir, va le rejouer dans Out et dans d'autres films. On aura dans Le Pont du Nord et tout ça, qui sont les innocents qui vont payer pour que la société puisse se réinventer, dit-elle, mais en fait simplement perdurer et faire perdurer les intérêts de la classe dominante, tout en faisant bonne figure. Et à côté, il y a ceux qui vont arrêter certaines choses de se reproduire. Le fameux « cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça, pas comme les autres fois », qui est une phrase prononcée par Juliette Berthaud et Dominique Labourier dans Céline et Julie vont combattre, qu'on connaît certainement, enfin vous avez sans doute entendu, pas, mais qu'avait cité Judith Godrèche au César, mais qui est une phrase de clé de Céline et Julie vont en bateau, qu'avait d'ailleurs cité au même escient Hélène Frappa, je pense une semaine avant, dans son article du Monde, et qui est revenu beaucoup. Céline et Julie vont en bateau, ça fait vraiment sens, parce que on va dire c'est un des rares films qui répondait à ce qu'on appelle le test de Bechdel. Le test de Bechdel, qui est dans une bande dessinée d'Alison Bechdel des années 90, où on voit deux femmes qui disent, est-ce que tu peux me citer seulement 5 films, où on voit deux femmes qui, dans un film, parlent entre elles avec amitié, et parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Et elles n'en trouvent pas 5. Et en fait, cette question-là, elle avait déjà été posée par Delphine Seyrig, qui avait fait « Sois belle et tais-toi », et elle avait une réponse qui était « Il y a Céline et Julie ont ton bateau », et elle interroge Juliette Berthaud. Parce que le film, en fait, Céline et Julie ont ton bateau, que Rivette réalise après Out, il le fait avec Juliette Berthaud. Juliette Berthaud est co-scénariste. Elle est co-scénariste avec Dominique Labourier, Bulogier, Marie-France Pizier, et elles ont avec elles Rivette et Eduardo Di Gregorio, qui en gros montent l'ensemble, parce que c'est un film qui est divisé en deux, avec d'un côté le récit des deux filles, et de l'autre côté un récit circulaire en boucle qui serait produit, et dans lequel une petite fille est sacrifiée à la fin, à chaque fois de la journée. Un récit terrible de domination et de cruauté et de perversion, avec une enfant victime. Et il y a ces deux femmes qui se rencontrent, qui sont deux magiciennes, qui deviennent amies et qui décident d'aller sauver la petite fille. Et c'est dans ce cadre-là qu'elles disent « Cette fois-ci, ça se passera pas comme ça, pas comme les autres fois. » Il était une fois que cette fois-ci, ça se passera pas comme ça, pas comme les autres fois.
Donc finalement, moi ce que j'ai pu trouver, on va pas spoiler, mais ce que j'ai pu trouver en parcourant un peu ce livre, c'est bien sûr la question des impossibilités, mais vous parlez aussi, j'utilise un grand mot, mais vous parlez aussi d'émancipation.
Oui.
Du fait que l'émancipation, c'est pas un état, c'est un parcours, et que dans les parcours d'émancipation, il y a bien sûr les étapes individuelles, et les étapes collectives. Et on voit très bien, notamment avec ces actrices, réalisatrices, Juliette Berthaud, Hermine Caragueuse, mais aussi les personnages comme Céline et Julie, comment est-ce que, parce qu'elles se sont émancipées ensemble, d'autres peuvent le faire.
Bah, Juliette Berthaud, c'est pour ça que je m'arrête très longuement sur Juliette Berthaud, parce que je suis désolé qu'elle soit pas plus présente aujourd'hui, que ses textes ne soient pas ou réédités ou édités, que l'ensemble de ses films ne soient pas disponibles. Juliette Berthaud, en fait, elle a émergé comme actrice chez Godard et chez Rivette. C'est surtout pour ça qu'elle a été connue. La chinoise dans Le Gai Savoir, dans Out, dans Céline et Julie vont en bateau, dans Duel. Mais en fait, au moment où elle fait Céline et Julie vont en bateau en tant que co-scénariste, et le film, il a été décidé au départ par Rivette et Juliette Berthaud. C'est-à-dire que c'est Rivette et Juliette Berthaud qui sont face à un été où ils ont la possibilité de faire un film, parce qu'il y a un film qu'ils devaient faire, qu'ils ne pourra pas se faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, il y a l'idée de faire un film avec deux amis, enfin deux magiciennes qui se rencontrent, qui deviennent amies, etc. Et qui, on va dire, essayent de changer aussi la place des filles dans le cinéma. Juliette Berthaud, quand le film sort, dans le dossier de presse du film, c'est extraordinaire de voir ça, dans le texte qu'elle écrit dans le dossier de presse du film, elle termine le texte en disant « J'ai beaucoup appris de mes deux maîtres, le savant fou et le dernier samouraï. » Le savant fou, c'est Godard, le dernier samouraï, c'est Rivette. Elle dit « Mais n'ayant ni dieu ni maître, je vais maintenant m'atteler à ma propre créativité. » Bon, elle annonce qu'elle va commencer à faire ses œuvres. Et c'est ce qu'elle va faire. C'est ce qui est formidable, c'est qu'elle annonce dans le dossier de presse de Céline et Julien en bateau. Elle dit, bon, bah, vous avez rien perdu pour attendre, ça commence. Et à ce moment-là, elle avait déjà commencé à écrire des textes en revue. Elle va publier un livre, qui est La fille au talon d'argile, qui est un livre absolument stupéfiant. Alors, il est publié à l'époque par le Castor Astral, il n'est pas réédité, il est épuisé aujourd'hui, j'espère bien qu'il va être réédité un jour. Ça serait quand même la moindre des choses. Livre génial. Et ensuite, elle va faire trois films. Elle va faire Neige. Neige, on le trouve, ce film-là. Il est réédité, il est bien réédité, etc. Neige, c'est un film... Elle va faire d'abord deux films noirs. Hein. C'est des films noirs, Neige, mais des films noirs uniques, à sa manière. Neige et Cap Canaille. Neige, c'est dans le milieu de la drogue, Pigalle, à Paris, la nuit. Et comme dit à son sujet Pierre Thévenin, il annonce beaucoup de choses qui vont mettre 10 ans à se réaliser, c'est-à-dire des changements dans les systèmes de police, la gentrification de la ville et les enjeux policiers par rapport à la gentrification de la ville, comment se débarrasser des voyous parce que ça fait mal, parce que finalement il y a une nouvelle population aisée qui va devoir occuper des parties de la ville, etc. Enfin, tout ça, c'est dans Neige. Mais après, elle réalise Cap Canaille, et ça, ce qui est fou, c'est que Cap Canaille, c'est sur les incendies de forêt dans le Var, pour les constructions immobilières. Donc c'est sur toute la mafia marseillaise. C'est l'affaire Yann Pia, mais 15 ans ou 20 ans avant. Et le dernier film, qui lui n'est pas réédité en DVD, et c'est vraiment un scandale parce qu'il est absolument incroyable, c'est Havre. Et Havre, en plus, il appartient à une veine fantastique, comme les deux précédents, c'est des films noirs. Celui-là, il bascule dans le fantastique, dans le un film de voyage onirique qui inouï, d'une beauté stupéfiante. Et dedans, on a une secte de masculinistes racistes, mais qui ressemble à des incels, parce qu'en plus, c'est dans un milieu geek. C'est des milieux... C'est un film de la fin des années 80. C'est des histoires d'ordinateurs et tout ça. Et avec des incels. Mais c'est incroyable. Incroyable. Ça, c'est Juliette Berthaud. C'est quelqu'un qui vit avec 40 ans d'avance. Et elle est morte beaucoup trop tôt. Elle est morte de cancer, elle a eu deux cancers. Un premier alors qu'elle avait, 35 ans ou un truc comme ça. Un deuxième au milieu de ses années, enfin, entre 45 et 50. Elle est morte beaucoup trop jeune. Mais elle a vécu c'est une visionnaire. Et donc il y a ses textes, ses films, ça amène à tout ça aussi, le cinéma de Rivette. Alors il y a beaucoup d'actrices qui sortent du cinéma de Rivette, parce que c'est un cinéma à beaucoup d'actrices. Il y a quelques acteurs géniaux, hein, Jean-Pierre Calfon, Jean-Pierre Léo, Michael Lonsdale, Benoît Réjean, mais enfin il y a tellement d'actrices dans les films de Rivette. Et comme les films de Rivette ont ce truc très particulier qu'ils donnent le pouvoir à ces acteurs, et là en l'occurrence à ces actrices, parce que ça aussi, il le reprend de Renoir, mais il le radicalise. C'est-à-dire qu'il décide de faire l'endormi. C'est une expression de Renoir. Donc c'est un cinéaste qui fait l'endormi. C'est-à-dire qu'il essaye d'être le moins présent sur toutes les décisions qui sont autour de son film. C'est le contraire du réalisateur démiurge. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui, en gros, met en place un jeu. Et après, aux autres de le jouer, quoi. Mais il met en place un jeu. Il a des idées générales et il va laisser le film s'écrire. Donc, que ce soit par des scènes qui sont préparées peu de temps avant le tournage, ce qui va être le cas de beaucoup de films des années 70, comme L'amour fou ou Signe j'ai longtemps bateau. Donc les acteurs et actrices sont co-scénaristes, mais ça se fait pendant le tournage. Ou que ce soit carrément improvisé, comme pour Out, qui est le plus radical. Là, en fait, ils sont vraiment jetés dans le vide. C'est des scènes incroyables, hein, parce que c'est aussi des acteurs, c'est des acteurs exceptionnels. Donc Bernadette Lafont ou Jean-Pierre Léo ou Bulogier ou Michael Lonsdal jetés dans le vide. Bon, on sait qu'il va se passer quelque chose de stupéfiant, mais ils sont jetés dans le vide. Et ce qui est fou, c'est que ça crée des connexions complètement inattendues, complètement folles. On voit des choses apparaître qui sont jamais apparues, et ça touche le magique. Et après, il va avoir des scénaristes, mais qui sont des scénaristes qui travailleront sur le tournage, scénaristes dialoguistes, Pascal Bonizère et Christine Laurent, qui donc prendront en compte aussi tout ce qu'amènent les acteurs ou les actrices et travailleront avec eux. Donc c'est vraiment un cinéma unique. C'est ce qui fait qu'ils émergent tellement, les acteurs et les actrices. Et donc Juliette Berthaud, Hermine Carageuse, mais on peut dire aussi Bulogier, bien sûr, et on peut dire aussi Nathalie Richard dans les plus récents, bien sûr. C'est des actrices exceptionnelles et qui portent beaucoup de choses.
Juliette Berthaud, elle le dit elle-même, finalement, sur Céline et Julie, enfin, en tout cas, dans les citations que vous mettez dans le livre, elle le dit elle-même, en fait, c'est un film de filles.
Oui, oui.
C'est-à-dire que Jacques est là, mais c'est notre film. En tout cas, il accepte aussi que c'est un film dont il a à s'émanciper pour qu'il puisse exister par lui-même.
Bah, en fait, elle dit même carrément « il était une fille ». Elle dit ça, hein. Et elle dit aussi « il était une machine ». Elle dit « il était une fille ou une machine ». Alors, tu décides. Mais une machine, dans le sens, faut comprendre, c'est dans la culture des 70, c'est sans doute lié aussi à Deleuze et à les machines désirantes et tout ça. C'est pas un ordinateur, quoi. Oui. C'est l'idée qu'il se connecte, quoi. Il rencontre. Il est pas dans l'affirmation de sa subjectivité. Et ça, c'est un geste unique pour un réalisateur qui implique pas seulement une émancipation de ses personnages et de ses acteurs et de ses actrices, mais aussi de ses spectateurs. C'est-à-dire que le spectateur se retrouve à un lieu où il n'avait jamais été avant. Et le cinéma de Rivette, il a quelque chose de dingue, c'est que, et ça c'est parce qu'il va à un endroit très particulier, qui est, dedans, il fait jouer à ses acteurs des acteurs qui répètent des pièces. On voit bien qu'à ce moment-là, on est quasiment, oui, mais on est quasiment dans le documentaire, parce que ils font ce qu'ils font. Ils sont au travail. Ils sont dans leur travail. Parce que ce qui intéresse Rivette aussi, c'est d'essayer de capter. Il y a plein de choses qui intéressent Rivette. Essayer de capter le moment créatif. Il essaye de capter comment ça se passe dans le moment créatif. Il y a quelque chose d'énorme à ce moment-là qui se joue. Donc, comme il prend des acteurs, qu'il les fait jouer des acteurs qui répètent une pièce, on a l'impression d'être dans un documentaire. Ce qui fait que quand il joue ensuite des personnages, bah, on est toujours un peu dans le documentaire aussi. Et donc on les regarde avec un regard qui est plus le regard ethnologique, le regard ethnographique. On observe comment fonctionne une société. Alors qu'on est dans le jeu. Mais on observe un jeu, et le film observe le jeu de façon documentaire alors qu'il est une fiction. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est vraiment révolutionnaire. On peut vraiment dire si on accepte le deal de départ, tout le monde accepte pas ce deal, hein. C'est un deal très particulier. Si on accepte ce deal de départ, on va de merveille en merveille. C'est infini. On n'en verra jamais le bout tellement tellement ça sera vivant. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est une image que j'aime bien, qui est dans la saison 3 de Twin Peaks. Il y a un moment où l'agent d'origine indienne, indien d'Amérique, Hawk, amène une carte au shérif Truman, le frère, Frank Truman, et il lui dit, c'est une ancienne carte. Il dit oui, mais elle est toujours actuelle, elle est vivante. Ben, les films de Rivette, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que même s'ils sont faits dans les années 70, ils sont vivants. Dans le sens où, quand on les voit aujourd'hui, ils parlent à aujourd'hui. Ils ont l'air d'être faits aujourd'hui.
Ça donne envie, non ? Ça vous donne envie ? Alors, ce qui est incroyable, c'est que... le clin d'œil assez incroyable que vous avez vécu par rapport à ce livre, sans vouloir encore une fois spoiler tout ce qui s'y passe, de toute manière, ça serait impossible, c'est que dans les films de Rivette, on ne sait pas où on va atterrir, mais quand vous avez commencé ce livre, jamais vous n'auriez pensé, potentiellement, là où... ce par quoi ça finit. Si vous pouvez nous raconter
quand
même.
Oui, je peux le raconter quand même, parce que vraiment...
c'est quand même incroyable.
Spoiler un livre, c'est très gonflé, mais c'est trop facile quand même à ce niveau-là. Il suffit de l'ouvrir pour s'en rendre compte. Mais c'est pas sur la couverture, et ça c'est volontaire que ce soit pas sur la couverture. Mais il y a une énorme surprise. Mais il fallait que le livre épouse la surprise que ça a été pour moi. C'est-à-dire que quand je termine le livre... Donc le livre fait 10 chapitres qui épousent plus ou moins quand même malgré tout la logique de l'énigme qui est donnée au personnage de Jean-Pierre Léaud dans Out, parce qu'il reçoit une énigme en 10 phrases par rapport à la société secrète des 13, etc., qu'il essaye de décrypter, qui est une très énigmatique. J'ai essayé de suivre plus ou moins même un parcours comme ça en allant de personnage en personnage et tout. Et à un moment, le livre s'arrête, il est terminé. Et là... je vais quand même le faire lire au moins à une personne qui pourra me dire si j'ai dit que de la merde ou si ça passait, qui est la veuve de Jacques Rivette, qui est Véronique Magnier-Rivette, qui est sa veuve, que je connais, qui m'a déjà même montré plein de choses quand je lui ai demandé pour le livre, elle m'a ouvert aussi une documentation. Mais j'ai jamais trop voulu abuser de ce genre de choses parce que, j'ai une forme de superstition aussi par rapport à tout ça. J'ai toujours l'impression que faut pas forcer non plus les archives. Sinon elles se referment un peu. Les textes eux-mêmes se mettent à parler quand ils le désirent. Et alors là, c'était un choc, vraiment, c'était très surprenant. C'est-à-dire que je termine le livre et donc je lui envoie, on voit quelques trucs parce qu'il y a par exemple des choses que j'avais vraiment précisées, qui sont toujours très importants à préciser. Par exemple, c'est très important de pas faire dire à Rivette des choses qu'il n'a pas voulu dire. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il faut pas le lui faire dire. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Véronique Rivette, c'est-à-dire que il faut toujours bien que ça soit clair, que c'est mon hypothèse, et que c'est pas parce que ces films sont ouverts de telle sorte qu'il veut lui-même que tout le monde se les réapproprie. Donc, il ne les surinterprète pas. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais c'est quand même étrange que t'aies pas parlé de l'année dernière à Paris. Je dis, mais qu'est-ce que c'est l'année dernière à Paris? Il dit, ben tu je t'en ai pas déjà parlé? Non, je vois pas du tout. Tu vois pas? C'est un scénario que il a écrit avec Pascal Bonizère et Christine Laurent dans les années 2000, et ils ont pas trouvé les financements, ils l'ont pas, mais ils ont écrit un traitement d'une vingtaine de pages. Je pensais te l'avoir montré. Et je dis non, pas du tout. Elle fait, parce que ça résonne vraiment beaucoup avec ton livre, hein. C'est étonnant, c'est pour ça que je me disais il va en parler tout de même. Je dis non, mais alors, et alors elle dit je te l'envoie. Et donc elle me l'envoie, et c'est bien sûr, je lis un texte, c'est un choc, quoi. Alors c'est une histoire d'abord que je connais pas de Rivette, faite dans les années 2000, qui retisse avec les thèmes et de Out et de Paris nous appartient, et de tous ces films de, on va dire, de jeux et de complots parisiens, etc., ou de complots ou pas complots, c'est trop de dire complot. Et je lui dis, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait le republier? Elle fait oui, je pense, oui. C'est une bonne idée. Et alors j'ai demandé leur autorisation à Pascal Bonizère et au fils de Christine Laurent, parce qu'elle est décédée elle aussi. Ils étaient d'accord. Donc le livre se termine par l'année prochaine à Paris de Jacques Rivette, Pascal Bonizère et Christine Laurent, le traitement. Donc il y a 20 à 30 pages du livre qui sont pas de moi, qui sont le récit de ce film fantôme. Et c'est un cadeau pour les gens qui ont bien voulu vous lire le livre jusque là, quoi. C'est pour ça qu'il n'est pas en couverture, parce que il faut pas non plus qu'il l'achète pour ça. C'est trop cher pour 30 pages. Mais Il faut qu'ils aient un minimum d'intérêt pour le reste, sinon ils se sentiront volés sur la marchandise. Mais sinon, je pense que c'est. Et puis alors, pour moi, c'était. Donc il fallait le. Il se termine comme. Pour moi, ça s'est terminé, c'est-à-dire vraiment de façon complètement folle par. Le sujet se met à parler. Le livre décide de quelque chose totalement indépendant de ma volonté. C'est plus moi, quoi. C'est le sujet qui prend le dessus et qui raconte quelque chose sur Paris à nouveau. Voilà.
C'est quand même une magnifique histoire, cette fin.
C'est inespéré. C'est incroyable.
Peut-être je m'autorise une dernière question, puis après, parce que vous êtes quand même nombreux et nombreuses, donc je vais donner la parole à la salle. Peut-être une question un peu plus intime sur... moi, quand j'ai lu votre ouvrage et puis les autres que j'ai pas eu le temps de lire de A à Z, mais que j'ai quand même traversé, je vous vois un peu comme, vous savez, ce que les géographes désignent comme les lignes de désir. Vous savez, vous êtes sur un chemin et puis à côté il y a un champ et puis il y a des blés et puis il y a un passage. On voit que des gens sont passés parce qu'il y a des blés qui sont couchés. Ah. Et on se dit, y a des gens qui sont passés par là. C'est peut-être qu'au bout il y a une petite plage, un peu d'eau, je sais pas, mais en tout cas on voit qu'il y a des gens qui sont passés par là. Et donc moi, quand je vous ai lu, je trouve que vous faites partie de ces passeurs qui finalement décident de partir par un autre chemin pour aller voir autre chose. Et je me suis demandé d'où ça vient, ce désir quand même de transmission, de lien, parce que c'est aussi refaire vivre des œuvres qui auraient pu rester là où elles sont. Alors bien sûr qu'elles vivent à travers des yeux certainement d'initiés, mais vous les amenez aussi à un public peut-être un peu moins connaisseur.
Ce serait extra, en tout cas si c'est le cas. C'est beaucoup. Les livres sont produits d'énormément de rencontres. Donc, typiquement pour ce livre-là, Colette Thomas, donc poétesse et interprète d'Antonin Artaud et grand amour d'Antonin Artaud et poétesse qui avait fait un livre, Le Testament de la fille morte, épuisée pendant très longtemps, qui a été réédité il y a quelques années. Et les éditeurs en question, l'édition Prairial, en cherchant les textes, etc., sont tombés sur des textes inédits. Beaucoup de textes inédits, ils commencent à rééditer Colette Thomas. Donc ils ont fait un premier livre d'inédits de Colette Thomas. Pour moi, c'est une des plus grandes, une poétesse la plus grande importance de l'histoire de la poésie. Mais vraiment, c'est le niveau de Roger Gilbert Lecomte, de Lautréamont. C'est un niveau mais incroyable. Élevé d'intensité, d'originalité, de vision. Colette Thomas, c'est vraiment sublime. Ben, Colette Thomas, typiquement, c'est une rencontre. Enfin, c'est plusieurs rencontres même, puisque ça n'est venu à moi que par des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit de le lire, les éditeurs en question qui m'ont dit « on trouve ça », etc. Ça peut t'intéresser. Je parle beaucoup d'Hermine Caragueuse, c'est une actrice de Rivette, mais c'est quelqu'un que j'ai bien connu, qui est morte il y a quelques années, mais avec qui j'étais très amie pendant 10 ans. Et que j'ai rencontré un soir par une amie commune qui me l'a présenté, qui savait que j'étais fan des films de Rivette et donc de Hermine Caragueuse, qui me l'a présenté. Et le soir où je la rencontre, c'est déjà une dame d'un certain âge, etc. On fait le chemin de retour. Il se trouve qu'on n'habite pas très loin l'un de l'autre. Donc on fait le chemin de retour ensemble. Et pendant qu'on fait le chemin de retour, on parle de poésie. Je découvre qu'elle est une lectrice des poètes du grand jeu, qu'elle connaît très bien Artaud et tout ça, si bien, parce qu'elle a été aussi ça je ne savais pas, mais elle avait été aussi l'amoureuse de Roger Blin, donc ce grand acteur et metteur en scène qui avait été découvert par Artaud et qui ensuite a été le metteur en scène de Beckett et de Genet, donc elle a une connaissance très profonde de tout ça, et qu'elle fait des lectures de poètes, et donc c'est comme ça que je découvre Hermine elle-même, qui est quelqu'un de méconnu, mais je sais qu'elle écrit, mais à moi comme à tous ses autres amis, elle dit, vous verrez ça plus tard, c'est pas au point, j'ai pas terminé encore, j'y travaille, mais c'est pas fini. C'est après son décès qu'on découvre une malle remplie de textes incroyables. Donc ça, c'est pas encore publié. Donc du coup, le livre, c'est l'occasion de mettre des extraits. À un moment, je me dis, bon, mais je m'en fous. Le lecteur, s'il m'a suivi jusque-là, peut-être qu'il accepte que pendant 10 pages, je vais aussi lui parler des textes poétiques d'Hermine Caragueuse, parce que pour moi, c'est relié à tout le reste. Donc le livre, c'est aussi à un moment un état des lieux de plein de choses, quoi. C'est une enquête, mais c'est aussi des rencontres, mais c'est aussi comment dire, un bulletin d'informations de ce que j'ai trouvé qui me semble intéressant et dont on parle pas forcément beaucoup, mais je me dis, on va en parler, c'est quelque chose dont on va parler, c'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose dans le mot qui vient, il a été trop employé. Non, mais c'est quelque chose in progress, quoi. Je sais pas comment dire. Et donc du coup, les livres fonctionnent comme ça pour moi. Donc c'est un peu ça depuis le début. Donc chaque livre est aussi le résultat à la fois d'une passion obsessionnelle, de rencontres plus ou moins anciennes, de choses qui me semblent intéressantes et que je veux partager, d'hypothèses que j'ai pas trouvées sur ou que je découvre et que je vois pas développer et qui me semble aussi fonctionner ensemble, et donc c'est un continu. C'est pour ça que tous les livres se continuent, hein. C'est pour moi c'est quasiment un seul livre, quoi. C'est les épisodes d'un livre, quoi.
Une mini-série.
Ouais, c'est une série.
Ouais. On va prendre quelques questions. Quelle heure est-il ? 18h. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer ? Je ne sais pas s'il y a un micro.
Oui.
Je répète peut-être.
Alors ça, oui.
Donc appétit vorace pour la lecture.
Ouais.
D'où ça vient ?
Alors ça. C'est une bonne question, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de lire ? Alors, et j'ai pas, c'est arrivé tard. Enfin, j'ai lecture de jeunesse, ma lecture de jeunesse vraiment, c'était Lewis Carroll. Alors ça, enfant, après avoir vu le dessin animé de Walt Disney, j'ai demandé à mes parents, ils m'ont offert en folio junior Alice au pays des merveilles et De l'autre côté du miroir, et je les ai lus obsessionnellement. Et je voulais décrypter le poème du Jabberwock et tous ces trucs-là, mais vraiment obsessionnellement. Donc ça, c'était vraiment une passion d'enfance. Mais sinon, enfant et adolescent, j'ai surtout lu des bandes dessinées. Vraiment surtout des bandes dessinées. Alors à un moment, il y a eu une bascule. Je pense que un des faits phénomène. Alors, il y a eu les poètes, et puis il y a eu Borges. Je pense que ça doit être venu par Borges. Parce que Borges, je l'ai lu quand j'avais 16-17 ans. La raison pour laquelle j'ai lu Borges, c'était, je l'ai toujours d'ailleurs ce numéro, dans un numéro d'Actuel, on avait comparé Twin Peaks à Borges. Et je venais de découvrir Twin Peaks, j'étais fou de Twin Peaks. Je me dis, qu'est-ce qui ressemble à Twin Peaks ? Alors, ça ressemble pas vraiment à Twin Peaks, Borges. Mais comme ils avaient pas beaucoup d'éléments, ils l'ont comparé à Borges. Donc j'ai lu Borges, il y avait un Borges qui avait visiblement été offert par mes parents pour un anniversaire, mais que j'avais pas lu, j'avais 15-16 ans. C'était Le Livre de Sable. Et après, j'ai lu les autres. Donc pendant un an à peu près, je lisais que Borges. C'était quand j'étais à Clermont-Ferrand. C'était quand j'étais en première à Clermont-Ferrand. C'est l'année où il y avait Twin Peaks. L'année où il y avait Twin Peaks, j'étais en première au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Je regardais Twin Peaks, je lisais que Borges et un peu les poètes. Et alors après, j'ai lu ce que Borges conseillait, quoi, plus ou moins. Puis bon, puis après j'ai lu plein d'autres trucs, quoi. Parce que un livre en amène un autre. Mais si on devient un peu, comment dire, si on a un esprit un peu marabout de ficelle, on s'arrête jamais à un livre. Le livre, il demande toujours qu'on lise un autre livre. Il y a toujours un livre derrière un livre. Il y a toujours une porte derrière une porte. Il y a toujours une image derrière une image.
Surtout avec ce livre, parce que moi, ma pile s'est agrandie quand même, depuis que j'ai traversé Les Secrets de la Société, bah oui.
C'est vrai.
C'est-à-dire que oui, il y a quand même quelques références.
Il y a beaucoup de livres. Mais il y en a, je dirais pas que c'est absolument indispensable que les... Enfin, l'Abbé Barvel, c'est une question de goût, quoi.
Non, je vous
si vous voulez, quoi, hein, vraiment. Moi, je veux empêcher personne, hein, vraiment. Faites votre avis par vous-même.
Et d'autres questions ?
qui mène, par exemple, tout le monde politique à l'heure actuelle ?
C'est pas comment je le vois moi, c'est comment beaucoup de gens l'ont vu. C'est dérangeant. Je sais pas si c'est dérangeant. C'est dans Balzac déjà. Hein. C'est les serpenteaux de l'or et du plaisir. Toute la société est drainée par les serpenteaux de l'or et du plaisir. Alors c'est l'argent. Le plaisir, c'est le sexe. Je veux dire, on n'a rien. Comment dire, Balzac à ce moment-là, il est contemporain quasiment de. Non, pas vraiment. Mais enfin, il est dans la même dans la même idée qu'on va trouver très vite avec avec Marx et avec Freud. Mais c'est déjà là. De toute façon, c'est là depuis le début de l'humanité. Enfin, les gens en parlent depuis le début de l'humanité de ce problème-là. Simplement, la question est comment est-ce qu'on arrive à changer ça ? Il y a eu des révolutions. Elles n'ont pas suffi. Sans révolution, je vois pas comment ça pourrait changer. Mais c'est pas moi qui vais. Enfin, je veux dire, il y a des gens plus autorisés que moi pour en parler. Hein.
Bah, il y a presque 90 ans, moi, je pense que je vais devenir communiste. Hein.
Alors, il y a certainement, il y a beaucoup de vrai dans le communisme. Mais tiens, ça c'est comment dire. C'est une phrase qui est... c'est pas souvent que je cite Godard. Je cite plutôt Rivette que Godard. Mais c'est dans un film de Godard, et c'est une phrase qui me fait beaucoup rire. Je sais pas de qui elle est, mais Godard la cite régulièrement, c'est « Avec le communiste, j'irai jusqu'à la mort, mais pas un pas de plus. » Elle est formidable.
S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai encore quelques-unes quand même, parce que on a peu abordé les gnostiques.
Oui.
Ça pourrait peut-être éclairer
cette dernière phrase.
Ceux qui rentrent, oui, cette dernière phrase, et ceux qui rentreront dans le livre, parce que
oui, ils sont très présents, voilà, comme dans tous les précédents, bien sûr.
Sont-ils quels sont leurs réseaux?
Ils sont, voilà, c'est les invités permanents. c'est comme un club où ils seraient toujours là. Non, mais de toute façon, depuis maintenant une dizaine d'années, je me suis donné comme quand même obsession, je me suis pas donné d'ailleurs, j'ai trouvé, enfin ça m'est tombé dessus quoi, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ont voulu dire ces personnes que les chrétiens ont appelées les gnostiques, pour simplifier. Et là, je pense que ça sera encore plus simple. Je veux dire, j'ai réussi à passer, pas en contrebande, mais presque, dans Blast, au moins deux vidéos là-dessus, donc voire trois. C'est sous prétexte de faire une alternative au roman national, en fait, c'est mon petit roman gnostique. Mais ça m'obsède. Donc c'est ceux qui ont voulu suivre la parole de Jésus, mais qui n'ont pas voulu suivre l'Église. Pour simplifier, on va dire ça. C'est vraiment simplifié de beaucoup. Mais il y a eu beaucoup de courants, beaucoup, beaucoup de courants, entre le 1er et le 3e siècle, qui ne sont pas réductibles à l'opposition fameuse entre les courants de Pierre et de Paul au sein du christianisme, et qui sont fusionnés et qui ont donné d'abord le christianisme, ensuite les divisions propres au christianisme, la forme orientale et la forme occidentale, l'orthodoxie et le catholicisme, et ensuite les protestantismes, etc., mais qui tous, en gros, toutes les formes du christianisme se basent au moins sur un même corpus net, qui est le Nouveau Testament, ce qu'ils ont appelé le Nouveau Testament, et qu'ils ont associé à la Bible des Juifs, qu'ils ont appelé l'Ancien Testament. Ils en ont fait une seule Bible, et tout ça. Il y a eu plein d'autres courants qui se revendiquaient de Jésus et qui ne suivaient pas ça, et qui avaient une conception, pour vraiment dire les choses le plus simple possible, plus libertaire. On va dire ça comme ça. En tout cas, non hiérarchique, plus égalitaire dans leur manière d'être, de penser, de faire, etc. Et avec beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on dirait aujourd'hui plus moderne. Pas la même place donnée aux femmes, pas le même regard sur l'amour, etc., etc. Et j'ai essayé de comprendre ça parce que c'est très compliqué, étant donné que pendant très longtemps, on n'avait que les réfutations par les pères de l'Église. En l'occurrence, les hérésiologues, Irénée de Lyon, Épiphane, Hippolyte, et dans une moindre mesure Tertullien. C'est les seuls qu'on avait comme référence pour pouvoir comprendre ces mouvements qui, entre le 1er et le 3e siècle, proposaient non seulement une autre lecture de la parole de Jésus, mais proposaient même d'autres paroles attribuées à Jésus. Ils lui attribuaient d'autres paroles et d'autres histoires. Et en fait, ces textes-là, ils ont été détruits à cette époque-là. Mais en fait, certains avaient été simplement perdus. Et donc, on en a commencé à retrouver au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, et puis finalement, une jarre avec beaucoup d'entre eux qui avaient été enterrés, avec 44 textes, en fait, 52 textes, mais il y a beaucoup de doublons, donc c'est 40 textes en soi, Anagamadi, en Égypte, qu'on a retrouvé en 1945. Alors là, c'était une révolution. Et dans ces textes-là, à plusieurs reprises, Jésus s'adresse à ses amis et les appelle à Basileus Genea, vous, la génération sans roi. C'est pourquoi je les ai appelés les sans rois. Et donc du coup, tous ces livres, depuis la victoire des sans rois, reviennent, essayent d'explorer d'une façon ou d'une autre des paroles de sans rois. Alors que ce soit ceux qu'on a appelés les gnostiques, que ce soit Mani ou ceux qu'on a appelés les manichéens, qui m'intéresse aussi énormément, j'essaie toujours de comprendre un peu plus, et aussi ceux qu'on a appelés les cathares, qui s'appelaient eux bons hommes, bonnes femmes ou amis de Dieu. Mais ça, on peut étendre ces questions-là, parce que des hérétiques, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Mais disons que ceux-là ont plus d'un point commun, même s'ils ont des différences, et nombreuses entre eux. Et c'est cette histoire étrange qui m'intéresse. Comment est-ce que, sur le fond, même s'ils ont toujours été réprimés, ils ont toujours pu continuer à se transmettre quelque chose. Et ce livre, évidemment, les remet en scène à un endroit où je n'imaginais pas, puisqu'ils vont être la cible commune et des terroristes du complot et des théoriciens du complotisme. On va les renvoyer à chaque fois au camp d'en face. Donc ça, c'est fascinant, évidemment, parce que c'est ce qu'on appelle, en fait, des one-out. C'est pas out one, mais c'est des one-out. C'est les one-out de l'histoire. C'est les marginaux. Le one-out, c'est les marginaux. Donc c'est les one-out. C'est on va dire, la théologie des marginaux, ou la théologie de la marge. Et ça, ça m'intéresse énormément. Parce que d'une certaine façon, ils sont aussi une réponse à tout ce qui va mal. Parce que n'appartenant pas aux vainqueurs de l'histoire, ils peuvent nous aider aussi à développer une discipline qui échappe à l'opposition entre échec et réussite. Et le livre passe beaucoup de temps aussi sur un texte qui, lui, par contre, est un texte tout à fait orthodoxe, d'une théologie tout à fait orthodoxe, qui est la théologie indienne, ou de la métaphysique indienne, qui est la Bhagavad Gita. Parce que dans la Bhagavad Gita, il y a toute une doctrine de l'action qui pense l'action en dehors de son fruit. C'est-à-dire agir pour l'action en dehors de son résultat. Et je le rattache à la fois à la pratique d'acteurs d'Artaud et de Colette Thomas, qui vont réfléchir vraiment une métaphysique de l'acteur indépendamment de la représentation théâtrale. C'est-à-dire qu'on est acteur pas parce qu'on joue au théâtre, mais parce qu'on change son corps, parce qu'on change son rapport au monde. On est acteur dans la vie. Artaud, il est acteur jusqu'au bout. Il joue pas au théâtre quand il est à Rodez, quand il est à l'hôpital. Mais il est acteur de son texte, il est acteur de sa vie. Acteur sous un autre mode. Et Colette Thomas, elle développe aussi cette métaphysique-là. Et dans les films de Rivette, finalement, je me suis dit, pensant la répétition d'une pièce sans la pièce elle-même, c'est toujours des répétitions de théâtre où il ne va pas y avoir de représentation. Bah évidemment, en fait, ce qui l'intéresse, c'est le travail sur, c'est pas le résultat. Et donc ça se répercute aussi dans la pensée politique des films et dans la façon dont vont se constituer des sortes de communautés d'acteurs. Parce que ça parle beaucoup aussi de sociétés qui vont se créer de façon sauvage autour d'un projet. Quelque chose que Rivette a connu, puisque c'est ça, ce qu'il fait dans le cinéma. C'est les sociétés de Rivette. C'est la société qui se crée, la communauté qui se crée autour d'un film. Qu'est-ce que ça pourrait être un tournage? Un tournage, c'est vrai, on peut l'envisager sous le mode de la domination, avec une hiérarchie sociale énorme, avec les bachetas, avec les stars, avec le réalisateur qui est le grand chef, etc. Mais si le réalisateur fait l'endormi, comme chez Renoir, et qui renverse tout, alors en fait l'équipe qui fait un film, ça devient une sorte de société secrète, ça devient un groupe qui pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois travaille sur quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qui réussit à créer son propre écosystème, sa propre économie. C'est une TAS, quoi.
Une bande d'amis.
Et c'est une bande d'amis, et c'est la bande des quatre, c'est la logique de la bande des quatre de Rivette. C'est des réflexions. Rivette, quand il parle des comploteurs de Out, il dit c'est pas des gens sérieux. Il dit mais les gens qui font de la politique non plus, c'est pas des gens sérieux. Ils le savent d'ailleurs. Ils le savent. Les gens qui les prennent au sérieux, c'est les victimes. C'est ceux qui vont payer pour cette espèce de jeu d'enfant qu'ils ont toujours. Et il dit les gens sérieux, c'est qui? C'est les peintres, par exemple, etc. C'est pour ça qu'il va faire La Belle Noiseau. À mon avis, je veux pas parler à sa place. Ouais, mais c'est parce que c'est la recherche de la naissance de l'état créatif. Est-ce que ça transforme aussi dans la vie? Parce que c'est pas juste l'œuvre d'art qui compte. L'œuvre d'art comme résultat, ça compte si peu que dans La Belle Noiseuse, il l'emmure. Il emmure sa toile à la fin. On la voit pas. Peu importe. Elle a transformé le modèle qui elle-même va avoir la transmission secrète du peintre qui va devenir artiste à son tour. Et le film, il a deux lectures, La Belle Noiseuse. Si l'on voit la transmission secrète ou si l'on la voit pas. Si on la voit pas, le film, il est absolument déprimant. Si l'on voit ce qui se passe en sous-main, il est incroyablement stimulant. Il est fou. J'ai failli un peu devenir fou en regardant La Belle Noiseuse. Oh oui, oui, il y en a bien sûr partout. En fait, il n'y a pas besoin d'église. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas besoin d'église. Ça se transmet autrement. Donc oui, il y a la place pour ça, carrément, bien sûr. Place pour ça à partir du moment où on en fait quelque chose. On le transmet à travers des œuvres, des manières de vivre, tout ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Sans l'ostentation. Moi, je l'ai trouvé tel. Comment dire, dans les années 60, c'est à travers les disques de musique pop. C'est les Beatles qui font du gnosticisme. C'est David Bowie qui fait du gnosticisme. Les nonnes en parlent. C'est omniprésent. On en a dans des séries comme Les Leftovers, comme Lost, comme tout ça. Le grand pan, c'est autre chose. Le grand pan revient. Le grand pan est mort. Je sais pas, le grand dieu pan. C'est Arthur Macken. Vous pensez à Arthur Macken?
Oh oui, entre autres.
Oui. Ça, je connais pas. Hein? Ah, l'empereur Julien, le Julien l'Apostat, oui, bien sûr. Ah, c'est encore une autre histoire. Bon, autre ligne, autre histoire, mais très bien.
Je ne l'ai pas lu encore, celle-là. Hein.
Moi non plus.
Alors que je travaille un peu.
Avec monsieur.
Une dernière question, peut-être?
J'ai saoulé tout le monde.
Je pense qu'on est encore en train d'essayer de faire des liens avec tout ce qu'on a reçu. Merci beaucoup pour ce temps.
Merci à vous, merci vraiment d'accepter mes élucubrations d'un déjà vieux fou.
Mais nous sommes tous fous.
Oui.
Finalement. Vous ne nous avez pas parlé complètement de cette théorie-là, mais peut-être on vous la laissera découvrir dans le livre.
Oui, oui, ça suffit. Merci.